France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. Je suis ravi d'avoir les deux invités qui sont avec moi aujourd'hui. La principale, si j'ose dire, parce que c'était tout simplement la première invitée. La première aussi dans nos cœurs, il ne nous en voudra pas. Patricia Petitbon sera avec nous pour l'ouverture de cette émission. Et c'est Nemanja Radulovic qui sera là en guest star, comme il l'est aussi dans le disque de Patricia. Regardez comme tout ça se mord bien la queue. Allez, on va commencer par un peu de musique de la Belle, telle qu'il y en a sur l'album La Belle Excentrique. Gabriel Fauré, en sourdine, c'était chanté par Patricia Petitbon avec Suzanne Manoff au piano sur ce disque intitulé « La Belle Excentrique ». Il vient à peine de paraître chez Deutsche Grammophon. Bonjour Patricia Petitbon.
Bonjour.
Je suis un petit peu, je sais pas quoi, parce que j'ai commencé par peut-être pas la pièce la plus représentative de ce disque-là, quand on entend « Excentrique », etc., quand on nous promet du Satie, du Poulenc.
Si, si.
Mais quand même.
Si, quand même, quand ça même. Fait cette mélancolie... Volatile.
Volatile.
Oui.
Bon.
Non, j'adore cette dernière phrase. Le rossignol chantera. C'est d'une.
Voix de notre désespoir.
C'est une grande pureté dans l'émotion.
Ouais.
Et pour aller vers l'excentricité, il faut passer par la pureté aussi.
Et puis votre idée, je crois, c'est de mettre ensemble, en effet, des répertoires qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, c'est-à-dire le populaire et le savant, le très gai et le très mélancolique, et de voir à quel moment tout cela, finalement, s'interpénètre.
Oui, voilà, mais c'est aussi parce que la culture française, elle a une forme de mosaïque en soi, et donc c'est intéressant justement de mêler les styles tout en ayant une théâtralité, un fil conducteur, mais de voyager de façon aussi mélancolique et absurde. Voilà, j'ai choisi ce lien dadaïste qui est Eric Satie.
Ah, c'est ça. Fallait qu'il y ait quelqu'un là-dedans, Suzanne Manoff, pour ne pas la nommer, qui soit là pour coordonner un peu tout cela, parce que je crois qu'elle est très, vraiment très partie prenante dans la façon dont elle construit le programme.
Oui, nous sommes mariés d'une certaine façon. Nous avons l'alliance au doigt. C'est-à-dire que oui, forcément, il faut être en total. Symbiose pour pouvoir accepter un tel programme, pour pouvoir se jeter à corps perdu dans une certaine forme aussi d'absurde, voyez, ne pas se prendre au sérieux, être sérieux dans l'exécution de la musique, c'est-à-dire dans le travail intérieur de la musique, mais avoir un grand lâcher prise sur scène. Et ça, il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. Et Suzanne Manoff est la reine.
Ouais. Lâcher prise sur scène, vous dites bien, hein, parce que ça veut dire que ce spectacle, il a aussi pas mal tourné. Hein, c'est pas seulement un disque. Hein, ça.
Non, c'est pas seulement un disque. Il va dans différents endroits. Il va un petit peu partout.
Il était il y a deux jours à Montargis, soit dit en passant.
Voilà, tout à fait. Et il va aller au Danemark. On est allé à Vienne sur des grandes scènes, dans des lieux moins connus. Donc c'est vraiment une expérience humaine très intéressante pour voir un petit peu la réaction des personnes, des personnes qui connaissent la musique, qui ne connaissent pas, les enfants qui viennent aussi dans les salles de concert. C'est très important d'avoir des enfants.
Pour renouveler un petit peu le public aussi.
Oui, la jeunesse.
Pour avoir un vrai public vivant, quoi, tout simplement.
Oh, qu'est-ce que vous voulez dire?
Du genre qui crie quand il est content.
Mais oui, qui se manifeste. Ouais. C'est... Et puis, casser un petit peu aussi les codes, vous voyez, du récital. Liszt l'a inventé. D'une certaine façon, oui, le récital. Il arrivait avec des entrées triomphales et tout. Mais je pense qu'à notre époque, on a besoin encore d'un un autre Liszt, peut-être. Peut-être Nemanja Radulović.
Qui est juste en face. Bonjour,
Nemanja. Bonjour,
bonjour. On en profite pour le saluer. C'est la chevelure qui nous a fait penser à Liszt, c'est ça?
Je ne sais pas, c'est venu comme ça.
On parlera avec vous, Nemanja, tout à l'heure. D'autant que vous êtes dans le disque. Hein. Et vous faites une petite apparition.
De bonheur. Voilà, un grand honneur de participer à ce disque qui est fait de Patricia et Suzanne, que j'adore aussi. Et
voilà, tu vas reconquérir à vous aussi, Suzanne Manoff. Hein.
Oui.
Nemanja, justement, elle a un grand lâcher prise. Mais il est capable il a une grande capacité d'adaptation aux différents répertoires. Ça, c'est...
Quelque chose que vous aimez bien, ça aussi.
Ah, j'aime beaucoup, parce que c'est une façon aussi de savoir... s'effacer, se mettre en valeur, voyez, c'est de pas être toujours dans le son, voyez, puissant, fort, mais de savoir retirer, d'avoir des côtés translucides, épais, d'utiliser la matière du son.
On va entendre ici, puisqu'on en a parlé, Satie est comme au cœur, hein, la statue de bronze, nous raconte une histoire, hein, une drôle d'histoire. On va l'écouter.
Des bulles
Fait plein de bruit avec sa bouche, hein, Patricia Petitbon.
Bah, c'est une grenouille qui n'a pas souvent l'occasion, justement. Donc, je lui donne un peu l'occasion à la fin du morceau cracher son insecte.
Eh oui, c'est une platée tardive, on va dire, hein, oui. Quelque sorte, dans cette statue de bronze d'Éric Satie, chantée par vous, donc Patricia Petitbon, avec Suzanne Manoff. Au piano, pourquoi je citais tout à l'heure la date de Montargis à 2 jours à peine? Parce que vous connaissez bien la ville de Montargis où vous faisiez ce concert-là.
Oui, je suis née à Montargis. Et donc, j'ai fait un grand concert à Montargis. Et c'était...
Bonheur.
C'était un grand bonheur. Et puis, une expérience assez particulière. Comme si j'étais dans une sorte de liquide amniotique.
Ah bon?
Oui.
Bon. Parce que vous étiez vraiment chez vous, c'est ça?
Oui, j'étais chez moi, mais ça rassemblait plusieurs moments de ma vie. Mmh. Et c'est comme si le temps fractionné se dépliait devant moi. C'était une drôle de sensation sur scène, quoi. Une façon très, très, très étonnante d'aller vers l'enfance, mais le présent qui se déroulait devant moi. Et puis, tout d'un coup, de revoir des visages que je n'avais pas vus depuis très longtemps. C'était assez émouvant, très, très émouvant. D'ailleurs, c'est difficile d'être dans l'émotion à ce moment-là parce que on ne peut pas se plonger totalement parce que c'est trop fort.
Il faut bien chanter quand même en plus.
Voilà, il faut bien chanter, c'est trop fort. Mais en même temps, j'avais 10 000 questions à la seconde qui arrivaient quand je chantais. C'est une façon de dire que finalement, nous les artistes, nous sommes des vecteurs, peut-être des gens qui rassemblent. Quand j'étais au lycée, je savais que, de façon très très claire, je n'allais plus revoir un tas de gens. C'est cette notion de cet éparpillement, voyez, humain et du temps éparpillé. Et le fait de revenir et de redevenir un centre... fait que finalement, tous ces gens, ils sont là, vous voyez, ils sont toujours présents dans ma mémoire, parce que il y a quelque chose qui nous lie. Donc ça pose beaucoup de questions sur ce que l'on est, où l'on va.
La question du retour, toujours.
Du retour, de la présence, de la mémoire des gens en vous, voyez, ils vivent en vous.
On croit qu'ils y sont plus, et puis quand on retourne, on se rend compte
qu'ils sont là.
Ils sont bien là.
Et donc c'est très intéressant d'un point de vue espace-temps, quoi. Donc c'était très fort.
C'est dans l'autre dimension, presque.
Oui, oui, oui. Donc j'ai vraiment un liquide amniotique.
Je comprends.
Parce qu'on ne se comporte pas de la même façon. C'est ça qui est étonnant. Je ne me suis pas comportée de la même façon que si je m'étais comportée sur une autre scène. Il y a quelque chose de supplémentaire qui est arrivé.
Parce que ce n'était pas un public d'anonyme, entre guillemets, c'est ça?
Oui, et je le savais. Et c'était un retour à la maison, à l'enfant que j'étais, à l'adolescente, et en même temps à la femme que je suis maintenant.
Il faut dire qu'une chanteuse, ça passe beaucoup de temps dans les hôtels. Alors, on va entendre celui de Francis Poulenc. Quoique, je ne vous souhaite pas qu'il s'y passe autant de choses dans vos hôtels à vous qu'on a là.
Non, très, très calme, l'hôtel d'une chanteuse.
Hôtel, la musique de Francis Poulenc, d'après Guillaume Apollinaire, toujours Patricia Petitbon et Suzanne Manoff sur cette belle excentrique programme de concert. Le prochain, ce sera le 29 novembre à Paris, à la salle Pleyel, et puis de disques donc ici chez Deutsche Grammophon, disque auquel participe, on l'a dit donc, Nemanja Radulovic. Pour quoi donc? Pas du Satie, pas du Poulenc, du Léo Ferré. Alors ça, c'est surprise quand même quand elle vous a dit tu veux me faire le violon sur Léo Ferré. Quoi qu'a dit Nemanja?
J'ai dit oui tout de suite. De toute façon, c'est... je ne connaissais pas énormément du Ferré parce que je ne suis pas né en France, en fait, et ce n'est pas forcément la musique que j'ai, voilà, qui était actuelle et que j'ai écoutée.
Puis question mais de génération quand... aussi, vous êtes peut-être un petit peu jeune pour Léo Ferré.
Mais oui, je crois.
merci.
Non.
On n'a pas dit vous.
J'ai pas dit à toi, Patricia. Mais... évidemment, quand j'ai entendu la chanson, j'étais vraiment bouleversé. Et puis que ça venait de Patricia, je suis un fan de Patricia, ça elle le sait depuis plusieurs années. Je suis toujours à l'attente des autographes après ses concerts.
C'est vrai elle.
Oui, j'adore.
Vous n'avez pas besoin d'attendre, vous.
Si, au début, rappelle-toi.
Nemanja nous a présenté un arrangeur extraordinaire qui est compositeur aussi, qui s'appelle Alexander Sedlar, et qui nous a fait l'arrangement de On s'aimera.
Voilà, et puis je garde un super souvenir de cet enregistrement à Berlin, parce que de voir aussi le professionnalisme de Patricia aussi, comme ça, de si proche, de la voir dans chaque moment où elle sait exactement où elle veut aller. En même temps, elle laisse toute la liberté à que la musique vienne aussi. C'était un grand apprentissage.
Oui, parce qu'elle n'a pas l'air comme ça, entre le côté la belle excentrique, le côté cool, machin, etc. Mais elle est exigeante, hein, au travail, en répétition, machin.
Elle est complètement, mais je pense pour pouvoir être cool, il faut être vraiment un grand professionnel. Et c'est... C'est Patricia, c'est pour ça qu'on l'aime tous.
Alors vous dites que vous allez voir ses concerts, ses spectacles, oui, vous dites ça comme ça, mais je vous prends comme ça, le dernier que vous ayez vu.
Le dernier, c'était l'opéra de...
De Bruxelles, oui.
À Bruxelles, voilà.
Au monde.
Ah oui, l'opéra de Philippe Boussement, c'est ça.
Oui. Voilà.
Oui. D'accord, ah oui, vous étiez vraiment là.
Ah oui. Ah,
il est arrivé avec des gardes du corps et tout.
C'était des manières.
Oui, des amis. C'était aussi grand que lui.
Non, je suis arrivé avec les amis qui sont venus de Serbie à Paris. Et puis on a fait l'après-midi à Bruxelles. Et puis on a écouté l'opéra et on est rentré juste après. Et c'était magique, oui. Mais je ne suis pas le seul fan dans ma famille. On est tous. Ça commence par ma petite nièce qui a 8 ans jusqu'à mon papa. Et voilà.
Le fan club Nemanja Radulovic, on peut dire ça. Pour Patricia Petitbon.
Patricia Petitbon.
On l'a bien saisi. C'était un grand spectacle, ce Au Monde de Philippe Boussement. Saint-Patricia l'an dernier. Oui. Vous avez donné quand même en 2013. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui le choisissez. Enfin, 2013, saison 2013-14. Entre les dialogues des Carmélites dont on parlera tout à l'heure, ce Au Monde de Boussement et puis la Manon dont on dira deux mois un peu plus tard, ça a été une grande saison. Hein.
Mais oui, c'est vrai que ce sont des projets où il se passe quelque chose au point de vue de la théâtralité et puis des rencontres. Joël Pommerat, Olivier Py, Philippe Busmans. Ce sont des associations et des personnes qui m'ont apporté énormément.
Mais c'est marrant parce que quand on fait du spectacle, il y a des choses réussies, il y a des choses qui le sont moins, des choses ratées. Et on peut faire, je dirais, d'un année sur l'autre, un grand chef-d'œuvre et puis une grosse plantade.
Oui, mais il y a des périodes comme ça, astrales, dans la vie. Il y a des périodes où... Voilà, il y a des joyaux qui arrivent et puis il y en a d'autres à certains moments de la vie où c'est pas ça.
C'est plus compliqué.
Mais c'est comme ça, mais c'est normal, comme ça on reconnaît aussi ce qui est beau de ce qui l'est moins.
Manuel Rosenthal, il est aussi au programme de ce disque pour une série de pièces que je ne connaissais pas, entre autres cette superbe rêverie. Thank you. Patricia Petitbon, Suzanne Manoff et le concours d'un percussionniste François Verly sur cette rêverie de Manuel Rosenthal. Quelle petite merveille, hein, vraiment, Patricia. Où est-ce que vous avez trouvé ça?
Ah bah par hasard.
Comme toujours. Bon, La Belle Excentrique, c'est donc le disque de Patricia Petitbon. Il paraît chez Deutsche Grammophon. Plein de petites merveilles, on l'a dit, plein de très belles choses. Puis du rire aussi là-dedans. On va y revenir peut-être un peu plus tard.
France Musique.
À midi 23, dans le magazine de Patricia Petitbon et Nemanja Radulovic, il est temps qu'on fasse le questionnaire de Proust.
Ah.
On aime bien ça, Patricia, les questionnaires?
Ah, ça dépend.
Ah, ça dépend des questionnaires.
J'ai du mal avec les questions. Mais...
C'est vrai?
Oui.
Vous apprêtez bien quand même.
Je suis trop diffuse, je suis pas assez concentrée sur...
Ah, d'accord.
Oui.
Parce que votre esprit part partout, vous êtes
oui,
une
voilà,
rêveuse. Votre vertu préférée, tiens, c'est quoi?
Alors, la loyauté.
Ah, d'accord. La loyauté des gens vers les autres, c'est ça?
Oui, j'aime la loyauté. Je suis assez droite. Je pense être droite dans la vie et je n'aime pas les...
Les gens qui louvoient.
Je n'aime pas les queues de poisson.
D'accord. Et dans le monde lyrique, il y en a beaucoup des queues de poisson?
Oh oui, il y en a. C'est-à-dire que... Oui, oui, il y en a beaucoup. Mais c'est-à-dire que c'est pas seulement le monde lyrique, c'est un petit peu partout. C'est aussi notre société, vous voyez. C'est vrai qu'il y a des comportements, des sales comportements, mais ça, c'est dans la vie qu'on les trouve... Mais bon, je suis un petit peu vieux jeu là-dessus. Je pense être assez loyale quand même.
La couleur que vous préférez?
Le bleu.
Ah d'accord. Bon, moi j'aurais dit le rouge ou un truc comme ça.
Non, le bleu.
Le bleu, d'accord, très bien. Bleu couleur ciel, couleur...
Oui, couleur mer, couleur ciel, tous les bleus.
Tous les bleus.
Bleu turquoise, surtout bleu turquoise, j'aime beaucoup le bleu turquoise.
Donc si je vous demande votre peintre favori, vous me répondez Klein? Non.
Non,
pas
obligatoirement. Picasso.
Picasso, d'accord.
Oui. Oui, pour moi, c'est le plus... Bah, d'ailleurs, bon, c'est à la mode là, en ce moment.
Oui, moins qu'on puisse dire.
Mais je le trouve... le personnage est fascinant. L'enfance de Picasso est fascinante. Tout est fascinant chez lui. Cette sorte de grande liberté. Ce monstre dévorant. Voilà, c'est vrai, quand on se retrouve devant une œuvre de Picasso, c'est assez...
Vous avez une période préférée ou c'est tout Picasso?
J'aime tout Picasso.
Je vous comprends.
Non, j'aime les femmes, par exemple, au visage, là,
aux
yeux, vous voyez, les portraits de femmes. Ça, je trouve ça incroyable, toutes ces dimensions dans les portraits. Mais j'aime beaucoup de choses de lui, évidemment. On ne sait pas trop choisir. C'est tellement impressionnant. Et puis les films qui ont été faits sur lui. À l'époque, on faisait des films sur des artistes.
Ça se fait encore quand même.
Oui, mais c'est moins original. Il y a moins d'originalité, il y a moins de je trouve de profondeur. Donc
c'est vrai que le voir peindre en face de lui comme si on était la toile.
Voilà,
avec ce sourire permanent.
Oui, puis c'est quelqu'un qui a un appétit de vie. La seule chose, c'est qu'on se dit, c'est vrai que. Être la maîtresse de Picasso, ça devait être quelque chose de compliqué. Et comment exister après?
On s'en remettait pas toujours, je crois.
Voilà, parce qu'on est dans une sorte de transcendance quand même. Il dévorait tout autour. Donc voilà, c'est un personnage de roman. Et puis ce sang aussi espagnol qui fait que ce mélange, vous voyez, de la terre, de la chair... Cette culture forte qui est en lui fait que, oui, c'est un génie.
Le don de la nature que vous voudriez avoir?
Alors, c'est quoi le don de la nature? Est-ce que ça peut ne pas exister?
Ça peut ne pas exister.
Oui, alors, j'aimerais bien être, rien du tout. C'est-à-dire de ne plus avoir de corps, mais être là.
Pas de corps, mais être là?
Oui.
C'est le néant dans la conception chrétienne, un peu, c'est possible ça?
Je ne sais pas.
Non? Ou alors fantomatique, c'est peut-être le côté spectre?
Une sorte d'esprit volant.
D'accord,
non identifié. Esprit volant un peu partout, voilà.
Ah non, d'accord.
Voilà. Partout.
Et vous seriez légère sur les choses, du coup, vous verriez tout?
Tout. Ah. Je serais présente partout.
Ça vous fait peur, la mort, Patricia, Petitbon?
Ça ne vous fait pas peur, vous?
Non, je ne sais pas, ça dépend. Enfin, c'est pas moi qui réponds aux questions.
forcément, oui, parce que c'est l'inconnu. C'est une chose inconnue pour... Voilà, tout le monde va mourir. Donc ça, c'est une chose catégorique. Mais oui, forcément. Mais en même temps, j'ai une idée de la mort, justement, dans cette chose-là, sorte de tout. Après la mort.
D'accord. Bon, alors avant de mourir, quand même, on va vivre.
Mmh.
Le pays Une dernière question. Le pays où vous désireriez vivre?
Bon, alors, je resterai en France, hein, ouais. Mais sur une île.
D'accord, une île en France.
Oui.
Faut trouver, c'est pas évident. Ça.
En Bretagne.
En Bretagne. Oui. Vous la connaissez, l'île, déjà?
Oui.
Ah! Bon. Nous le dira pas. Vous allez acheter dessus?
Ah, j'en sais rien.
Ah, c'est pas, mais c'est laquelle vous
voudriez. C'est une île sauvage, pas du tout people.
D'accord. Et on connaît son nom, vous ne le dites pas, vous la gardez pour vous.
Moi, je la garde pour moi.
Ouais. On va choisir autre chose comme lieu que vous aimez aussi pas mal, je crois. C'est pas une île.
Cela va faire une semaine déjà que je vis seul à Vienne. C'est curieux le hasard, j'ai croisé l'autre soir nos amis de l'Untachimo. Cela va faire une semaine, ils étaient de passage à Vienne. Ils n'ont rien demandé mais se sont étonnés de me voir à Vienne sans toi. Moi, je me promène, je suis bien. Et puis de semaine en semaine, voilà que je vis seule à Vienne. Tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part tu as trouvé l'oubli de moi. Je lis, j'écris, mais quand même, pour qu'il est long l'automne à Vienne. En ce lieu de place où la nuit je me glace, tout à coup j'ai le mal de toi. Que c'est long Vienne, que c'est loin Vienne. Je t'écris ce soir de Vienne, chérie, c'est qu'il faut que tu viennes. J'étais partie, pardonne-moi, notre ciel devenait si lourd. Mais toi de Paris jusqu'à Vienne, au bout d'une invisible chaîne, tu me guettais, je pense, jouant l'indifférence, et tu m'as gardé malgré moi. Il est minuit ce soir à Vienne, mon amour, il faut que tu viennes. Tu vois, je m'abandonne, mais il est si beau l'automne, et je veux le vivre avec toi. C'est bon, Vienne, avec toi, Vienne.
Vienne, bien sûr, chantée par Barbara. Alors, on l'a choisie pour au moins une raison. C'est quand on a demandé une madeleine à Patricia Petitbon, elle nous a répondu Vienne, justement, la ville. Donc on a cherché avec Antoine, et Antoine a trouvé Barbara. En disant, sûr que Barbara... Ça va lui plaire, à Patricia Petitbon. Oui. C'est pas sûr, si, quand même.
Ah, si, quand même. Grande.
Ouais.
Grande artiste.
Pas dans la grande gaieté tous les jours, on vient d'entendre.
C'est ce qu'on aime chez Barbara.
Bah oui, évidemment. Et alors, la ville de Vienne, pourquoi?
Eh bien, parce que Vienne, c'est une Vienne. C'est une ville. Oula, on va se réveiller. C'est une ville incroyable pour les artistes, pour les peintres, pour les chanteurs, pour les acteurs. Et que Vienne. M'a adoptée d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que, voilà, Vienne, récemment, parce que j'ai chanté au Staatsoper Manon de Massenet, avec Frédéric Chasselin. Donc, on chante, on répète 3 jours en studio, et puis le jour de la première, paf, costume, découverte de l'orchestre, paf, on est. Et c'est vrai que c'est...
À la Staatsoper, peu de répétitions. Hein.
Voilà, très peu de répétitions, en studio, donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur scène, évidemment, mais c'est extraordinaire de force, de vie.
Mais vous qui aimez tellement répéter, ça vous manque pas, justement, ce genre de...
Ah bah, alors, attendez, j'aime bien répéter pour des choses essentiel, on va dire. Mais quelquefois, je dois dire qu'il y a trop de répétitions sur certaines choses. Là, évidemment, on ne s'est pas posé la question, mais je trouve que le résultat est absolument incroyable, d'une certaine façon, parce que cette sorte de prise de risque, d'aller au feu, de risquer, quoi. Et en même temps, voilà, ça offre une dimension différente. C'est comme si vous chantiez pour la première fois, je veux dire.
Ben Manon, en plus, c'était vraiment la première fois pour vous. Hein.
Mais c'était la première fois, mais en même temps, je redécouvrais cette scène du Staatsoper, parce que j'avais déjà fait des débuts, mais toujours avec un émerveillement d'enfant, quoi. J'étais dans un bain de lumière.
Et quand on parle toujours du Philharmonique de Vienne, ben, l'orchestre de l'opéra qui est dans la fosse comme ça, on dit que c'est à ce point extraordinaire. Ça l'est réellement ou c'est de la légende, ça?
Ah non,
pour le chanteur.
Non, non, ce n'est pas de la légende. Bon, là, il y avait c'était pas totalement le Philharmonique de Vienne ces soirs-là, mais oui, c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'ils ne répètent pas. Ils ne répètent pas. Ils arrivent, paf, comme ça. Non, c'est un orchestre sublime, sublime.
Et vous l'entendez comme ça quand vous êtes sur scène, vous aussi. Hein, c'est
ouais,
pas
ouais,
seulement.
Ouais. Non, c'est beau, c'est très, très beau.
Dans la salle,
c'est magnifique, c'est exceptionnel. Je sais pas sur quelle autre scène c'est possible comme ça. Bon, il y a l'Opéra de Munich, mais on répète quand même. On a quelques répétitions avec l'orchestre. Là, on n'en a pas. Mmh. Comprenez, c'est vraiment bon. Advienne que pourra. Et puis c'est tellement fou que finalement, vous prenez comme les enfants. Vous allez sur la poutre, vous savez. Vous êtes en équilibre et si vous tombez, ben vous tombez.
Mais après tout, c'est pas très grave.
C'est pas très grave, mais c'est très fort en énergie. C'est très fort dans les moments et surtout pour des rôles aussi longs comme Manon, j'ai une très très grande émotion.
On va vous entendre aussi aux côtés de Nicolas Arnoncourt, on sera encore un peu viennois parce que là c'est la personnalité dont vous vouliez nous parler. Alors j'ai regardé du coup, ça fait des années en fait que vous travaillez avec Nicolas Arnoncourt.
Oui, ça fait des années. Bon là ça fait un petit moment.
La rencontre c'était il y a 10 ans, quasiment.
Oui, ah, oui même, oui, oui, il y a plus longtemps même. Mais oui, ça fait partie des phares qui vous montrent la voie, le courant dans lequel vous devez pas avoir peur d'emprunter. C'est ça qui est très fort chez des personnes, enfin des artistes de cette dimension. Et c'est très important parce que sinon on a peur de tout. Et d'avoir voilà un chef d'orchestre aussi humain, aussi inventif, aussi imaginatif, aussi.
On s'imagine pas en le voyant qu'il est humain comme ça, parce qu'il a une réputation qui est absolument pas la sienne en plus de personne austère, dur, machin,
mais
etc.
Pas du
on
tout.
Le voit souvent comme
il
ça.
Il est drôle.
Bah, je sais
il
bien.
Est très drôle.
Bah, je le dis pas.
Mais non, mais je ne sais pas. Parce que les Français n'ont pas eu la chance de le voir trop souvent. Ouais. C'est vrai qu'il reste souvent à Zurich, Vienne. Salzbourg, voilà, il est resté un petit peu dans ces régions-là. Mais
cette image de pape du baroque, évidemment.
Ah oui, mais c'est un vrai pape. Mais alors un pape libéré.
Un pape du 16e siècle. Hein.
Vous me tendez la perche, là, je vous réponds. Voilà. Qui suis-je pour juger, disait le pape.
Oui.
Mais c'est vrai, c'est une superbe phrase d'ailleurs. Mais voilà, donc je rebascule sur Nicolas
Arnoncourt.
Mais non, mais voilà, et bien justement, cette liberté de ton, et c'est un homme qui a un humour, mais vous ne pouvez pas vous imaginer.
Et agréable en répétition ?
Ah, très. Ah non, mais le respect, la loyauté, comme je disais, le respect des autres. Il ne supporte pas qu'on l'appelle maestro, il faut l'appeler Nicolas. C'est une famille. Il y a Alice aussi, sa femme, grande violoniste. Et cet orchestre, Concentus Musicus, qui est extraordinaire, d'inventivité, de son, il a révolutionné quand même le baroque et il nous a révolutionné en même temps. Et donc, c'est vrai que voilà, ce sont des hommes qui donnent de grandes leçons de vie. Et une grande leçon par rapport à l'attitude que l'on doit avoir avec la musique.
À vous entendre avec lui, justement.
Oh!
une suite, bien sûr, mais on va arrêter là cette déploration extrait d'Orlando Palladino de Haydn, pardon, Nicolaus Arnoncourt, dirigé son Concertus Musicus de Vienne. Et c'était la voix de Patricia Petitbon qui était là.
France Musique.
Et l'autre, il est ici, Nemanja Radulovic, à ma gauche, à 12h38, dans le magazine de France Musique. Nemanja, pour parler de votre dernier disque, lui aussi chez Deutsche Grammophon, Carnet de voyage au pluriel. Est-ce que dire que des voyages, il y en a eu beaucoup, il y en a eu dans le passé, il y en a dans le présent, il y en aura dans l'avenir, n'en doutons pas. Je me trompe, c'est votre premier Deutsche Grammophon ou c'est non ?
C'est le premier international et le deuxième en France.
Ah voilà, c'est ça, tout à fait. Grande maison quand même. Hein. Ça fait quelque chose de se retrouver à cette maison.
Grâce à Patricia aussi.
C'est vrai ?
Oui, parce que Patricia m'a conseillé sur pas mal de choses aussi. Et c'est beaucoup grâce à elle aussi.
Bah, elle ne le sait même pas, elle me regarde à l'air.
mais si, elle le sait. Mais elle est, je pense qu'elle ne veut pas la reconnaître, mais c'est vraiment beaucoup grâce à elle parce qu'elle a su me conseiller.
Va voir un tel, va voir un tel, c'est ça ?
Oui, et puis aussi sur...
Deutsche Grammophon, c'est intéressé à quand même Nemanja. Non, mais Nemanja a une grande humilité, voilà, mais c'est le talent de Nemanja et son travail.
Bien sûr, bah, il vous renvoie un truc, vous n'avez pas non plus.
Non, mais parce que, parce que c'est vrai, parce que voilà.
Bon, bref, d'accord. On parle de voir ça, elle ne fait pas complètement non plus.
Mais je pense que c'est un mélange de tout ça. Et puis voilà, donc c'est le premier avec la maison de l'Allemagne. Et juste auparavant, il y avait le disque Paganini qui
absolument,
était,
tout à fait. Fait qui était juste France. Pour nous, en fait. Hein. Alors celui-ci, ce sera vraiment pour tout le monde. C'est un répertoire qui est très, très varié. Vous êtes allé chercher, là encore, bon, on parlait un petit peu du le rapprochement entre le populaire, le savant, comme ça, avec le disque de Patricia. C'est le cas ici aussi, parce qu'il y a beaucoup de mélodies populaires ou qui servent, d'une manière ou d'une autre, à des compositeurs savants qui les reprennent après.
Oui,
il y a
une partie qui est en musique traditionnelle et puis une autre partie qui est avec les compositeurs classiques, donc Tchaïkovski, Shostakovich, Khachaturian. Et c'est plutôt un voyage à l'Est, dans les pays des Balkans, pour pouvoir revenir à l'enfance et pour pouvoir la dédier à ma mère. C'était très intéressant de pouvoir dédier en fait un disque avec des œuvres classiques et en mélangeant aussi le traditionnel à quelqu'un qui est plus de ce monde et qui a tellement compté en fait.
C'est important la famille pour vous, je crois, Nemanja.
Ben, c'est la chose la plus importante et je dis à chaque fois, je suis le plus fier de ma famille et de l'amour et de ce que j'ai appris. En partageant la vie avec eux.
En partageant toujours, d'ailleurs.
Oui, avec certains et puis d'autres qui ne sont plus là, malgré qu'ils ne sont plus là physiquement. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Patricia a parlé sur la mort, ben, en fait, je n'ai plus peur de la mort parce que j'ai appris certaines choses et malgré qu'on ne soit plus là physiquement, ben, la vie continue et puis c'est pas effacé.
C'est pas effacé. Non. Le souvenir est toujours là.
Oui.
On va vous entendre ici vous souvenir de quoi ? Un petit peu de l'enfance dans cette danse traditionnelle serbe, Pesona Kold, c'est
Pachona.
Ça ? Pachona. Pachona, pardon.
Danse, oui, non, il n'y a pas de souci.
Ça signifie quoi ? Ça nous dit quoi ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, le titre, à part Kolo, c'est une danse traditionnelle. Et voilà, cette danse est vraiment à la frontière entre la Roumanie et la Serbie. Et on a eu beaucoup de fun.
Oui. C'est endiablé, là.
Mais je sais pas.
Thank you.
Pašola Kolo, une danse traditionnelle serbe jouée par l'ensemble Double Sens. C'était vous, Nemanja Radulović, qui était au violon. Yvan Kassar, qui nous a fait l'arrangement, qui s'est bien amusé. Hein. Il nous a fait un petit clin d'œil au milieu, là.
Oui, avec un aquarium.
Façon carnaval des animaux, c'est ça?
Oui, oui, oui. Mais en fait, j'ai découvert... je savais qui était Yvan Kassar, mais je ne connaissais pas forcément ce qu'il faisait, à part des choses qu'il faisait... plutôt dans la variété. Ouais. Et c'est vrai que j'ai découvert un type qui est vraiment très talentueux. Et on avait les mêmes envies déjà du son et d'une direction artistique. Mmh. C'était très facile de travailler avec lui artistiquement.
Alors là, ouais. Du coup, on se retrouve quasiment dans un film de Kusturica. Je note que Kusturica est au programme aussi.
Oui.
Kusturica, c'est bien cette ambiance-là en plus. Hein.
Oui, Kusturica qui, depuis des années, à travers ses films, montre aussi une culture de ces pays-là. Et la musique dans les films de Kusturica est toujours très présente. Et pourquoi on a choisi cette pièce, c'est que j'habitais déjà à Paris au moment où il a sorti ce film. Du coup, c'était un moment très nostalgique en fait à Paris, parce que mon pays me manquait réellement à une période, et le film est sorti. Et cette chanson à l'intérieur, ça, elle me touche tout particulièrement. Et voilà, un jour, j'ai demandé à Alexandre Sedlar, encore une fois, à nous faire un arrangement sur cette musique. Et on a fait la surprise à Emir Kusturica il y a quelques années.
Est-ce que vous le connaissez aussi?
Oui.
Oui, oui, oui. Il est aussi timbré qu'on le dit. On dit qu'il est fou.
C'est quelqu'un de très impressionnant, ouais. Et un grand intellectuel, et en même temps il adore la vie, et puis il n'aime pas, je crois, les bêtises.
Ah, voilà. Oui, c'est ça. Oui.
Il n'aime pas qu'on lui dise qu'il est fou, par exemple.
Mais je sais pas. Non, je pense que je sais pas. Je lui ai jamais dit qu'il était fou, et je pense pas qu'il est fou. Je pense que c'est quelqu'un vraiment de très impressionnant.
La musique qu'on entend là, on se dit c'est plutôt des musiques pour les mariages, pour les bars, ce genre de choses-là, ce genre de contexte. Est-ce que vous jouez dans ces contextes-là, vous aussi?
Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. J'aime bien faire. Voilà, avec des amis musiciens ou musiciens amateurs, quand on se retrouve à la maison, souvent, à la fin de la soirée, on sort les instruments et puis on fait un petit bœuf. Mais c'est vrai que dans tous ces pays, la musique est toujours présente et dans les restaurants, et dans les mariages, et dans les enterrements aussi. Et la musique nous accompagne, et c'est formidable, parce qu'il y a... aussi la musique classique qui est présente dans tous ces moments-là. Il n'y a pas que la musique traditionnelle.
Musique. C'est pas mal ce mélange-là, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le disque. On va entendre ici de la musique classique, mais qu'on ne connaît pas nécessairement très bien. C'est pour Mascarade, une pièce d'Aram Khachaturian, d'où vous avez extrait ce nocturne. Alors là, vous êtes dans un tout autre contexte, hein, parce que là, on n'est pas de musique ni de mariage et enterrement, mais c'est l'orchestre, le Deutsche Symphonieorchester de Berlin qu'on entend ici. Aram Khatchatourian, le nocturne de Mascarade, dirigé par Mikhail Jourovski, avec le violon de Nemanja Radulovic. Son dernier disque, Carnet de voyage, est paru chez Deutsche Grammophon. Il y aura concert pour ce disque-là le 18 novembre, c'est la semaine prochaine, mardi à Pleyel à 20h. Vous ferez quoi le programme, en gros, Nemanja, hein?
La deuxième précisément... partie, c'est le programme, et la première partie, elle sera plus classique avec la troisième sonate d'Enesco. Avec Laure Favre-Kahn.
D'accord, la pianiste qui sera là, et puis l'ensemble aussi, Double Sens, et puis Les Cris du Diable. Enfin, il y aura tout le monde, comme sur le disque. On vous retrouvera aussi au prochain récital de Patricia Petitbon. Alors là, ce sera encore Salle Pleyel pour La Belle Excentrique, puisque vous participez au disque. Vous participerez aussi au concert le 29 novembre. Le disque, c'est aussi Deutsche Grammophon. Et puis, avant de partir, Patricia, un mot quand même de ce DVD, Les Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc, qui est un spectacle absolument magique qu'on a vu l'an dernier. C'était au mois de décembre, hein, en 2013, il y a un an, tout juste. À Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. Ça nous arrive aujourd'hui chez Erato, dans la mise en scène d'Olivier Py. Jérémy Rohrer à la baguette pour tout cela. Évidemment, vous n'avez rien vu, vous, ce spectacle. Vous étiez dedans.
Non, bah, bien sûr. Non, j'ai vu quand même des extraits du DVD. Mais je suis très heureuse qu'il soit gravé quelque part, qu'il existe quelque part dans nos mémoires. C'est une photographie. Et puis surtout, voilà, c'est une mise en scène... magnifique, avec qui va vers une transcendance. Jérémy Rohrer à la baguette, et puis Michel Franck qui a eu l'idée.
Qui était le patron du TCL.
Voilà, qui a eu l'idée de rassembler tous ces chanteurs pour faire des chanteurs. Il y en a eu beaucoup des Français, pas seulement, mais disons pour faire une production de ce niveau-là.
C'est une production très très marquante, enfin, pour tous les spectateurs. Oui. Est-ce que pour vous, ça l'était aussi sur place?
Oui, c'est une grande aventure humaine, et puis qui amène beaucoup de questions, en tout cas, sur nos conditions humaines, sur la vie, sur la mort.
C'est pas un spectacle à réponse, c'est ça, hein?
Ah oui, non, c'est pas du calque, hein. C'est de la chair, c'est quelque chose d'intense dans l'émotion.
Et vous étiez donc Blanche de la Force, c'était votre première Blanche, je crois.
Non, c'était pas ma première parce que je l'ai fait à Vienne aussi dans la mise en scène de Robert Carsen, très très belle mise en scène. Donc voilà, c'était ma première, je dirais, création.
C'est ça.
Voilà, mais quand on en a fait une comme ça, ensuite, c'est compliqué parce que vraiment, c'est une mise en scène qui...
C'est comme la Loulou.
C'est une sorte d'absolu, quoi.
Ouais, je comprends. Voilà. Vous n'allez pas en faire 50 autres derrière.
Non, je vais reprendre. Je vais la reprendre. Elle sera à Bruxelles et elle reviendra au Théâtre des Champs-Élysées. Ouais. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Mais quand le texte est... Quand tout est lié de cette façon-là, avec une telle harmonie, une telle luminosité, c'est le rêve.
Profitons des miracles, ne les répétons pas.
Thank you.
bref extrait des dialogues des Carmélites de Francis Poulenc. En duo, c'était Patricia Petitbon et Topi Letipou. C'est un DVD qui vient de paraître chez Erato. Merci à mes deux invités du jour, Patricia Petitbon et Nemanja Radulovic. Cette émission a été préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Adeline Omello et Elisabeth Gornet.